C'est un enjeu national, voire international, la mise en défense de deux grottes dans le Tarn-et-Garonne et dans le Lot pour protéger les chauves-souris qui y habitent. Et c'est une opération menée conjointement par le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, et sous l'égide de Natura 2000, dont fait partie François Léger. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes animateur de ce réseau en Tarn-et-Garonne, sur les gorges de l'Aveyron et sur le Causse de Gossou. Donc deux grottes ont été fermées pour empêcher... les gens, les visiteurs, les spéléos, les escaladeurs de montagne d'aller réveiller les chauves-souris.
Ouais, c'est ça. Alors bien sûr, le but c'est pas stigmatiser qui que ce soit, hein, mais on avait certaines personnes qui malheureusement accédaient à ces cavités dans des périodes qui étaient parfois pas optimales et qui entraînaient des dérangements avec des conséquences qui pouvaient être très néfastes sur ces populations de chauves-souris. Il faut savoir que ces deux grottes, donc la grotte du Capucin et la grotte du Figuier, ce sont des grottes où on peut retrouver plusieurs milliers d'individus lors des mises bas. Et donc, on a des enjeux internationaux et nationaux qui avaient été identifiés sur ces cavités-là et on se devait de mettre tout en œuvre pour les préserver.
La chauve-souris, ces chauves-souris, pardon, il y en a plusieurs espèces, étant protégées.
Oui, comme toutes les chauves-souris d'ailleurs au niveau national. Mais là, en plus, il s'agissait d'espèces avec des enjeux d'autant plus forts tels que le minioptère de Schreber ou le grand murin.
Il y a deux périodes dans lesquelles il ne faut pas déranger les chauves-souris. Il y a la période de mise bas et la période d'hibernation.
C'est ça, grosso modo. Alors, on a une première période donc, qui est celle de mise bas et autre qui va de... Voilà, on va dire du mois de mars à peu près à septembre-octobre. Et après, on a une période d'hibernation qui va plus d'octobre-novembre jusqu'à fin février, début mars. Et il faut savoir que ces deux périodes-là ne peuvent pas exister sur toutes les cavités. C'est-à-dire qu'on a des cavités où on a uniquement de la mise bas ou bien uniquement de l'hibernation.
Donc a priori, ces grottes pouvaient ne pas être fermées tout au long de l'année. Il y avait déjà des petits panneaux indiquant aux visiteurs à quelle période est-ce qu'ils pouvaient ou pas rentrer dans les grottes. Apparemment, ça n'a pas été d'une utilité flagrante.
Disons que c'est un peu comme pour tout. Certaines personnes respectaient et l'immense majorité étaient respectueuses. Mais il arrivait que... d'autres soient un peu moins regardants, on va dire, et la tentation était sûrement trop forte de rentrer dans la cavité et d'occasionner, malheureusement, parfois, sans le vouloir, hein, mais des dérangements à ces populations fragiles.
Qui, quand elles hibernent, ne doivent pas être réveillées, parce qu'en se réveillant, elles crament toute l'énergie dont elles auront besoin, et en se rendormant, ne peuvent pas se réveiller une deuxième fois, surtout s'il n'y a pas d'insectes pour les nourrir à leur réveil.
C'est ça, en fait, une consommation d'énergie qui est bien trop forte à une période où ils ne peuvent pas forcément en emmagasiner en consommant des proies. Et de l'autre côté, durant la période de mise bas, le dérangement d'une colonie peut entraîner un effet d'affolement. En fait, les chauves-souris peuvent se mettre à s'envoler un peu d'un coup, occasionnant des chutes des juvéniles qui sont accrochés directement au sol sans la capacité de voler totalement. Mal maîtriser et donc s'écraser au sol et induire une mortalité assez, assez conséquente.
Ça arrive souvent, ces procédés de mise en défense ?
C'est quelque chose qui se fait ci et là. Alors, c'est pas ce qui se fait, on va dire, tous les jours, hein, bien évidemment, puisque c'est un processus qui est relativement long. Ça nécessite la mobilisation de beaucoup de structures, aussi bien locales, régionales, voire nationales. Mais c'est des choses qui peuvent se faire effectivement et qui existent sur le territoire. On ne va pas se cacher aussi que ce sont des procédures qui sont relativement coûteuses, qui sont prises en charge par ce qu'on appelle des contrats Natura 2000, qui sont financés d'une part par les services de l'État français et de l'autre par des fonds européens. Et donc, c'est des choses qu'on ne pratique pas non plus tous les jours, mais c'est un levier qu'on peut actionner.
On passe normalement plus par la pédagogie avant la sanction.
Tout à fait. Alors voilà, c'est vraiment ce qui est fait depuis des années et des années. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que les enjeux sont beaucoup trop forts et que, au-delà de la pédagogie, on est obligé de prendre des mesures un petit peu plus drastiques pour préserver notre patrimoine en commun.
Et alors, outre qu'on ne peut plus y accéder à ces grottes, si on essaye quand même, si on grimpe par-dessus le grillage, là, il y a des PV qui peuvent tomber.
Il faut savoir que sur la grotte du Figuier, donc une des deux cavités où on avait procédé à cette mise en défense, il y avait déjà avant qu'elle soit fermée, ce qu'on appelle un APPB, un arrêté préfectoral de protection de biotopes, qui est en fait un outil qui interdisait l'accès de telle à telle période, donc c'était pendant la mise bas, hein, de mars à septembre grosso modo, qui interdisait l'accès à toute personne à ces cavités si un agent de l'OFB, c'est-à-dire l'Office français de la biodiversité, vous voyez en train d'accéder à ces grottes durant la période qui était proscrite, il était en capacité de vous dresser un PV.
Ce qui n'est pas le rôle des animateurs du réseau Natura 2000.
Ah non, non, nous du tout, on n'a pas vraiment ce type de prérogative-là. L'animation Natura 2000 est véritablement basée sur la pédagogie et sur la sensibilisation du grand public. On n'a aucune action de police, aucun pouvoir de ce type.
Natura 2000 qui mène très régulièrement des actions sur le territoire, des journées nature, des sorties, des conférences, des balades, qui anime sa propre chronique sur les ondes de CFM Keilus, et dont on voit fleurir les panneaux le long des sentiers qui font un focus sur telle orchidée, tel papillon, tel arbre. C'est la fonction première du réseau Natura 2000.
C'est ça. Alors, ça, c'est effectivement le volet communication, sensibilisation, pédagogie sur Natura 2000 est relativement important. Après, on a tout aussi un volet connaissance des milieux et gestion des milieux, soit par des actions, typiquement, comme on a mis en place là, avec cette fermeture de cavité, hein, qui est une action de gestion, mais ça peut aussi passer par du conseil aux propriétaires pour avoir une gestion plus douce ou plus adaptée aux enjeux écologiques sur son territoire. Et on a aussi tout un volet réglementaire où, en fait, on assure une sorte de portée à connaissance, en quelque sorte, et une veille auprès des porteurs de projets pour les avertir que sur ce territoire où ils envisagent d'avoir tel ou tel projet, travaux, développement, eh bien, il y a un site Natura 2000 avec divers enjeux à prendre en compte, la façon de les prendre en compte, et voilà, tout plein de petits conseils de ce type.
On peut les retrouver, ces conseils, notamment sur Facebook, en tapant Natura 2000. Vous êtes sur le Gorge de l'Aveyron, pardon, et Causse de Gossou, et site proche, bien dans le Tarn-et-Garonne. Donc, François Léger, animateur du réseau Natura 2000, merci beaucoup.
Merci à vous.